Daniel, moi ça me fait extrêmement plaisir de te voir aujourd'hui parce que pour moi tu es la référence française pour tout ce qui est culture client, orientation client. En plus, tu as écrit de nombreux ouvrages, tu es l'auteur du COS, pour ceux qui ne le savent pas, je pense que tu vas en parler juste après. Et en plus, tu es chercheur dans le domaine. Donc à chaque fois que moi, il y a quelqu'un qui me dit, voilà, j'ai besoin d'une référence, d'information sur la culture client, pourquoi c'est rentable d'être orienté client, je dis, bah voilà, il y a une personne en France, c'est Daniel Rey. Et donc, en fait, voilà, je voudrais que tu te présentes un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas, qui sachent tout ton parcours et pourquoi, moi, je considère que tu es vraiment l'une des références françaises sur la culture client.
Merci Frédéric d'abord de ton invitation. Donc pour faire rapidement et pas passer une demi-heure à parler de moi et de etc.
Ta vie, ton œuvre.
Dans le domaine des études de marché, puisque j'étais à Sofres et en B2B d'ailleurs. Et puis après, j'ai monté ma boîte que j'ai revendue ensuite à l'époque, ça s'appelait Ernst & Young. Aujourd'hui, c'est devenu EY, donc un des big four aujourd'hui. Voilà, où j'ai passé un peu de temps à travailler aussi là-dessus, avec un domaine de spécialité sur l'innovation et un domaine de spécialité autour de tout ce qui est client, justement. Voilà. Et puis après, j'ai bifurqué vers la recherche, donc je suis devenu professeur de marketing à Grenoble École de Management, ce que je suis toujours aujourd'hui, où j'ai responsabilité, ce qu'on appelle l'Institut du Capital Client, voilà, une sorte de chaire multi-entreprise autour de ça. Et puis en parallèle, on a constaté en 2010-11 un décalage incroyable, Frédéric, tu l'as vécu aussi, entre ce que disait la recherche sur la culture client, qui était très très avancée, et puis ce que les entreprises nous disaient, où elles étaient un peu paumées, elles se disaient mais on ne sait pas très bien faire, on ne sait pas faire, il n'y a pas de KPI, il n'y a pas de machin, on ne sait pas comment s'y prendre. On dit qu'on s'y prend, mais on ne sait pas comment s'y prendre. Et du coup, moi, je me disais, mais comment ça se fait qu'il y ait un tel décalage? Et du coup, l'idée a été faite avec Guillaume Antonietti de monter une entreprise dont le premier outil, et tous les outils aujourd'hui, travaillent autour de la culture client. Et donc, on est parti du Customer Orientation Score, qui était un outil de diagnostic. Et puis, on a eu tellement de demandes et de demandes d'outils complémentaires pour développer la culture client des entreprises, qu'aujourd'hui, c'est le Customer Orientation System, avec plein d'outils différents qui permettent, qui ont un seul objectif finalement, c'est de développer la culture client de l'entreprise. Voilà. Avec plein de choses différentes, mais on y reviendra. Donc, de se transformer autour du recentrage client.
Donc, alors, voilà. Justement, ouais. Alors justement, là, tu as écrit de nombreux ouvrages et le dernier en date qui est sorti il y a à peine un mois et demi, c'est « Réussir sa transformation culture client ». Alors, pourquoi ce livre et quel est l'objectif de ce bouquin? Qu'est-ce qu'on va apprendre dans ce livre?
Alors, en effet, c'est la continuité de ce qu'on disait avant. Là, avec le COS, on a bossé avec plus de 150 entreprises. On a interrogé plus de 57 000 répondants maintenant, donc on a un benchmark vraiment solide. En plus, c'est des entreprises de toute taille, tout secteur, du pur B2B, du pur B2C, des énormes entreprises, des toutes petites entreprises. Et finalement, avec Guillaume, on s'est dit, mais on a accumulé plein de choses, en tout cas, c'est ce que nous disent les gens. Ils nous disent, mais vous ne vous rendez pas compte de tout ce que vous savez, écrivez-le, quoi. Et donc, on a voulu synthétiser et surtout structurer les principaux facteurs clés de succès, les écueils, et évidemment, en gardant notre positionnement qui est toujours fondé sur la recherche. Nous, voilà, la société qui s'appelle Academics for Business, malgré mon accent mauvais, tu as bien compris ça, c'est Academics for Business. C'est bien, on est fondé sur du scientifique. En quoi le scientifique vient permettre de créer des outils, etc. Et le bouquin, c'est la synthèse. Alors, on ne dit pas tout, évidemment, mais on essaye de poser les bases. Ce qu'on veut en faire, c'est simple, c'est un dirigeant, un responsable marketing, un responsable expérience client, etc. Lui, il prend le TGV Paris-Lyon, en un aller-retour, il a lu le bouquin, donc ce n'est pas un pavé, c'est le moins qu'on puisse dire, et il y trouve les basiques, les fondamentaux à connaître, et surtout beaucoup, beaucoup d'exemples réels. Tu l'as, ce bouquin, tu le sais. Chaque page, tu as au moins un ou deux exemples réels tirés de vraies situations. Notre job, c'était, sans arrogance, d'en faire un vademécum de la culture client, quoi. Je veux transformer mon entreprise en la recentrant sur ses clients. Comment je m'y prends concrètement? Voilà. Ce n'était pas autre chose que ça.
Alors justement, là, on est rentré dans le vif du sujet, mais est-ce que tu pourrais définir ce que c'est la culture client et pourquoi une culture client doit être importante? Parce que je sais que parfois, on se dit la culture client, c'est ce que font les employés envers les clients lorsqu'ils ne se savent pas observer. Je crois que c'est toi qui me l'avais dit à l'époque et j'ai trouvé ça vraiment excellent. Pour toi, quelle est la définition de la culture client et donc pourquoi c'est vraiment important d'avoir une entreprise orientée client?
Alors, en effet, ben là, tu abordes le cœur du sujet et je pense que c'est quasiment notre principale valeur ajoutée par rapport à ce qui se faisait avant. Et ça vient justement de l'académique. C'est que depuis le début, les recherches montrent que ce qu'on fait, c'est le résultat de ce qu'on a dans notre tête. Et donc, si je te dis, il faut dire bonjour, tu dois dire bonjour, Frédéric, ben, tu vas dire bonjour. Alors, au début, tu diras bonjour, puis au bout de 5 minutes, comme ça te gonfle, parce que ça n'a aucun sens, tu diras bonjour. Et là, on a tous perdu. Parce que Frédéric, si tu arrives vers moi, que tu rentres dans mon magasin et je te dis oui, bonjour. Ah, j'ai dit bonjour, hein, mon KPI il réussit, c'est bon, j'ai signé, tout va bien. Oui, sauf que ben, pas du tout, évidemment, parce que tu ne t'es pas senti accueilli. Et donc voilà le monde que je propose de diviser en deux catégories, avec ceux qui disent ben, il y a des KPI, des normes, des process qui nous disent qu'on doit faire ça, donc on le fait, et puis c'est tout. Et puis il y a les autres qui se disent attends, eh oh, on ne va pas se tromper de guerre. Et voilà pourquoi la définition de l'orientation client ou de la culture client, c'est pareil, c'est fondamental. Et donc la plupart des gens ont toujours considéré que le fait de bien dire bonjour, ce que je fais, c'est de la culture client. Pas du tout. C'est la conséquence de la culture client. La culture client, c'est quoi? Ce sont les croyances et les valeurs partagées dans l'entreprise qui placent la satisfaction durable des clients comme un objectif prioritaire à la fois de l'organisation et des collaborateurs. Donc, des croyances, des valeurs partagées. Donc, comme tu vois, c'est bien ce qu'on a dans notre tête. Une culture, la définition d'une culture, c'est ça, hein, des croyances et des valeurs partagées. Et donc, ce qu'on a dans notre tête, notre culture, fait qu'on va se comporter comme ça. Et donc, quand on dit bonjour, quand on dit bonjour, il garde mon sourire, bah, c'est la conséquence de ce que j'ai dans la tête. Et donc, ce qu'il faut comprendre, et là où malheureusement les entreprises se trompent, c'est qu'elles jouent sur, bon, tu dois dire bonjour. Elles jouent sur parce qu'elles veulent aller à la conséquence, parce qu'elles sont pressées. Alors que pour avoir la conséquence, pour avoir le bon résultat, il faut d'abord se préoccuper de la cause de ça. Voilà. Tu veux faire pousser une belle fleur, ben, si tu t'occupes que de mettre de l'eau et que tu ne mets pas de terre, pas de bon terreau, il ne va jamais rien se passer. Tu vas dire, mais je ne comprends pas, je ne comprends pas. Ben voilà. Et donc voilà pourquoi les entreprises doivent absolument comprendre qu'il ne faut pas se tromper de guerre. Et ça, c'est notre bagarre principale. Et Dieu sait si c'est compliqué, c'est cette dissémination, cette alphabétisation en disant Youhou, attention, stop. La définition d'une culture, c'est des croyances et des valeurs partagées. Donc la culture client, des croyances et des valeurs partagées qui placent la satisfaction durable du client comme un objectif prioritaire. Donc, messieurs, mesdames les dirigeants, commencez par changer les valeurs et les croyances et vous allez voir que tout le reste va suivre. Ça va être beaucoup plus simple. Pourquoi? Parce que ça me donne une norme sociale, je sais comment me comporter. Et on revient à ce que tu disais au début. C'est ce qu'on fait quand les gens, quand on croit qu'on n'est pas observé. Ça, c'est la conséquence de la culture. Voilà.
Oui, mais c'est vrai. Alors, je crois que tu avais noté lors de la soirée de présentation de ton livre, il y avait dans une entreprise, en fait, ils disaient, voilà, on était allé dans un magasin et il y avait les dirigeants qui étaient là. Et en fait, il y avait la personne qui était donc à la caisse, à la caissière. Et il y avait une personne qui disait, ouais, je me suis trompé de taille et tout ça. Et en fait, la personne dit, non, mais j'applique le règlement. Vous désolez, vous ne pouvez pas retourner, etc. Et elle a dit, ouais, mais je peux vous faire un avoir. Mais non, mais moi, j'habite à l'autre bout de la France. Je ne peux pas faire ça. Non, désolé, madame, c'est rien. La vendeuse a appliqué le règlement stricto sensu. Les dirigeants qui étaient à côté regardaient et disaient, mais non, mais c'est pas ça qu'il faudrait faire. Il faut quand même donner un avoir au client, etc. Et en fait, elle avait juste appliqué les règles parce qu'elle pensait que c'était ce qu'il fallait faire.
Exactement. Et ce qu'il y avait de plus marquant dans l'exemple que tu cites, qui est tout à fait authentique, c'est que la dame faisait ça au début, mais qu'elle s'est tournée, qu'elle a vu les dirigeants, et que du coup, elle a continué encore plus, en le disant encore plus fort, en disant, mais vous comprenez, monsieur, il y a des normes, on ne peut pas déroger aux normes, parce qu'elle s'est dit, mais si je déroge à la norme, je suis morte. Bienvenue. Donc là, c'est foutu d'avance. C'est foutu d'avance. Il y a une des trois dimensions de la culture client de l'organisation, qui est l'autonomie et la responsabilisation des équipes, qui n'y est pas du tout. Donc, d'entrée de jeu, elle a sûrement un bon sens client, mais elle n'a pas pu le mettre en avant. Voilà. Donc, en effet, cet exemple est assez marquant. Et on le voit tous les jours, hein.
Et d'ailleurs, justement, c'est dans ton livre, tu expliques justement ça avec le fait que ces fameuses croyances, ces valeurs ont différents niveaux. Il y a donc j'ai bien aimé ta notion de système 1, système 2, le fait qu'il y ait des valeurs collectives de l'entreprise, des valeurs individuelles, et tout ça, en fait, c'est ce qui permet de travailler sa culture client et de savoir justement comment travailler cette fameuse cause et pas travailler sur les conséquences.
Alors, il y a plusieurs choses dans ce que tu dis, en effet, vraiment importantes. La première, c'est le premier écueil qu'on voit, c'est que et tu connais ça aussi bien que moi, parce que tu es avec ton blog et pour le reste, tu le vois tous les jours, c'est que les entreprises confondent expérience client, relation client et culture client. Alors là, tu vas me dire, oui, mais bon, ça c'est théorique. Ah non, 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 c'est théorique, mais c'est hyper pratique. les gens se donnent bonne conscience, et j'insiste, et je suis le premier, et c'est super, et c'est une très bonne nouvelle, en disant il faut qu'on crée une expérience client mémorable. Et déjà là, premier écueil, ils se disent, bon, ben, on va investir dans la relation client. Non, attendez, l'expérience, dans l'expérience, il y a la relation, mais il y a aussi ce que je vis par ailleurs dans l'utilisation du produit, du service, etc. Donc, il n'y a pas que la relation. Première erreur. Mais ça, celle-là, encore, ça va. Deuxième erreur, c'est dire, nous, on travaille la culture en, justement, en essayant de faire transformer l'expérience client. Mais on revient à mon exemple du bonjour tout à l'heure. On peut mettre toutes les normes, tous les KPI, tous les process, et Dieu sait, je suis pour ça, il n'y a pas photo, hein. D'accord ? Dans la mesure où ça laisse un peu d'autonomie, mais il n'empêche, je suis tout à fait pour ça. Tant qu'on est là-dedans, on va passer à côté de l'essentiel, qui revient à mon bon sens client, etc. C'est de quoi parle-t-on ? Qu'est-ce que c'est que la culture client ? C'est bien les croyances et les valeurs. Et donc, si on ne s'occupe que d'expérience client et qu'on ne change pas les croyances et les valeurs, mais qu'est-ce qui va changer ? Rien. Frédéric, si je te dis, garde à vous, il faut que tu sois en tes clients, tu dois dire bonjour et, c'est pas, et sinon tu es viré, ben je veux dire, il ne va rien se passer. Si on s'occupe d'expérience client et que ça, on n'arrive pas, ben je peux l'expliquer, moi, chercheur. C'est très simple. Si ça ne marche pas, alors qu'on dépense des millions et qu'on a la meilleure volonté du monde, c'est parce qu'on ne s'est pas attaqué à la cause racine. On s'est attaqué à ce qu'on voit à l'extérieur, mais pas à la cause racine. La cause racine, c'est le manque, non pas de bonne expérience client, non. C'est qu'on ne changera pas l'expérience client si on ne change pas la culture client. Tu ne feras pas boire un âne qui n'a pas soif. Quand c'est tout. Et donc, on peut changer ce qu'on veut. Ta fleur ne poussera pas, pour reprendre mon exemple, si le terreau, donc commence par t'occuper du terreau. Et c'est ça qu'on essaye justement de faire comprendre aux gens, c'est que c'est ça le problème de base, c'est ne pas se tromper de guerre. Travailler la culture, voilà pourquoi c'est rentable. C'est parce que ça va permettre après, c'est facile. Dans une entreprise avant tes clients, allez, je prends un exemple au hasard, Decathlon qu'on connaît tous, Maïf qu'on connaît tous, mais moi j'ai beaucoup travaillé avec Decathlon, quand il se passe quelque chose qui ne va pas avec les clients, mais c'est super simple de le changer, beaucoup plus simple qu'ailleurs. Pourquoi ? Mais parce que les collaborateurs et l'organisation, les deux, sont profondément orientés clients. Donc, bah, on se plante, ok, on se plante, mais on va tout de suite, allez, on va changer, on va bouger, et c'est facile à faire. Et donc, comme tu le vois, je viens de décrire les deux piliers, comme tu le disais, de toute orientation client, de toute culture client, l'organisation et les collaborateurs. Et donc, il faut bien s'occuper des deux avec des choses très spécifiques. Et que si on joue que sur l'organisation, les collaborateurs ne suivront jamais, on ne décrète pas qu'on est orienté client. Et si on joue que sur les collaborateurs, et on l'a vu, ah ben, il faut changer le mindset des gens, on va faire plein de choses, mais que l'organisation les empêche, ben, Frédéric, j'aurais pu te former, j'aurais pu faire plein de trucs, tu vas ressortir gonflé à bloc, et demain matin à 8h, tout recommence comme d'habitude. Parce que ton KPI t'empêche, ta norme t'empêche, ton process t'empêche. Il ne va rien se passer. Donc, il faut bien jouer sur les deux dimensions.
Ouais, ouais, c'est exactement ça. En fait, moi, j'ai travaillé pendant longtemps dans une entreprise où on disait, ouais, on est super orienté client, l'expérience client est super importante. Mais sauf qu'en fait, on voyait bien que finalement, non, ce qui est super important, c'est le chiffre d'affaires. Et ils disaient, non, mais le chiffre, il est où? Bon, attends, on verra la relation client après, mais bon, il faut que le client, il paye. De toute façon, là, bah, il s'est trompé, bah, tant pis, on va lui faire payer un droit, un machin, etc. Alors que cette expérience client, bah, il faut se dire, non, ok, d'accord, le chiffre d'affaires, c'est important, mais le client doit être satisfait. Fait, ben, donc bien sûr, le client n'est pas tyran, mais il est roi. Mais donc, il faut se dire, à la place du client, qu'est-ce que tu ferais si tu étais traité, si tu avais cette empathie-là, et se dire que ben, finalement, oui, c'est important de faire du business, mais c'est également de conserver ses clients dans le temps, parce que finalement, en gardant un client dans le temps, on va faire quoi? On va le fidéliser, on va avoir du bouche-à-oreille positif, et ce n'est pas que du court terme, en fait, dans la relation client.
Alors, ce qu'il y a de sûr, c'est que je vais synthétiser ça en disant, ben, c'est une question de cause à effet. Le chiffre d'affaires, évidemment, parce que sans chiffre d'affaires, on ne se paye pas. Donc moi, je suis à fond pour le chiffre d'affaires. Mais puisque je suis à fond pour le chiffre d'affaires, et d'ailleurs, je ne suis pas du tout à fond pour le chiffre d'affaires, moi, je suis pour la rentabilité. Parce qu'une entreprise qui a beaucoup de chiffre d'affaires et qui n'est pas rentable, elle survit. Donc pour survivre, il faut de la rentabilité. Je ne parle pas de la redistribution, hein, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, une entreprise, pour survivre et se développer, elle a besoin de rentabilité. Et pour la rentabilité, il faut expliquer qui me paye. Hein. Moi, celui qui me paye, c'est mes clients. Parce que s'ils ne dépensent pas d'argent, c'est mort. Donc, pour réussir le résultat rentabilité, j'ai besoin de mes clients. Et donc, l'expérience client, la satisfaction, la fidélisation, comme tu le dis, eh bien, c'est une fois de plus, ne pas se tromper de guerre, c'est la cause. Donc, vouloir faire du chiffre d'affaires sans faire de satisfaction client, on va faire du chiffre d'affaires à très court terme. Et c'est fini après. Et de nombreuses entreprises en sont mortes. En revanche, quand on provoque de la satisfaction et de la fidélisation, alors toutes les études scientifiques montrent que bah, si on est correct à peu près sur les coûts et qu'on tient nos coûts à peu près, et bah, la rentabilité se pose là et ça se développe par recommandation, par plein de choses. Donc oui, donc pour moi, le client n'est pas roi. Ça, c'est personnel, hein, parce qu'il n'a pas tous les droits. C'est le moins qu'on puisse dire. En revanche, c'est lui qui nous fait vivre. Donc, on a le droit de choisir ses clients. On a le droit de pouvoir dire non, mais on a le droit d'expliquer. Je ne peux pas faire ça pour toi. OK, Frédéric, tu ne peux pas, je ne peux pas faire telle ou telle chose. Par exemple, tu viens dans un restaurant et tu me dis, tiens, j'aimerais bien un steak tartare. Je n'ai plus de steak tartare. Donc, normalement, c'est mort. Non, parce que si je te l'explique et si je te dis que moi, j'utilise uniquement du filet de bœuf pour mon steak tartare qui est le meilleur de France, et etc., que je viens, que je te dis, attends, je vais te concocter un plat, etc., tu n'auras pas eu ton steak tartare, tu devrais être mécontent. N'empêche que tu ressortiras, tu diras « Waouh, quelle pièce, restaurant !» Et puis, j'y reviendrai. Donc, comme tu vois, on peut ne pas satisfaire le client, entre guillemets, mais en revanche, lui donner une impression absolument colossale de vraiment « Oui, je suis vraiment à ton service, toi, client. » Et c'est vraiment, c'est réel, c'est pas fake, c'est pas du customer washing. Et là, ça marche très bien. Et la rentabilité va suivre. Là, il y a de nombreux chiffres qui le montrent. Et ça, c'est très, très clair.
Ouais, bah d'ailleurs, tu montres dans le livre un exemple intéressant avec le Crédit Agricole du Nord-Est qui montre en fait que les agences qui sont les plus orientées clients ont en fait un taux de
bancarisation,
voilà, qui est supérieur aux agences où en fait justement l'orientation client est moindre. Ça veut dire que les gens sont beaucoup plus fidèles à leur banque et ont un seul compte bancaire, alors que lorsque bah, les gens sont plus orientés business et moins orientés sur le client, et ben à ce moment-là, en fait, ils vont plutôt vers la concurrence. Donc là, c'est cet aspect rentabilité.
Tout à fait. Alors ça, c'est vraiment le basique, vraiment Frédéric, mais ce n'est pas un scoop. C'est si on veut faire progresser la culture client dans l'entreprise, il faut d'abord expliquer aux dirigeants pourquoi c'est bon pour l'entreprise. D'accord ? Parce que si on n'explique pas pourquoi c'est bon pour l'entreprise, ça ne va pas se faire. Les gens diront oui, oui, intellectuellement, c'est très, très bien, mais il ne va rien se passer.
Oui, parce que moi, mon truc, c'est le business. Et là, j'ai lu il n'y a pas très longtemps avec une personne qui travaillait dans les assurances et en fait qui a changé de boîte parce qu'elle me disait non, on a changé de DG. Avant, on était orienté client, on faisait des efforts pour les clients, on essayait vraiment d'adapter les process. Et là, tout d'un coup, un nouveau dirigeant est arrivé et c'était non, mais là, il va falloir développer le chiffre d'affaires, faire x2 cette année et fini de rire le client, le service client, le service réclamation. Non, mais là, c'est plus la priorité. La priorité, c'est business. Et c'est vrai qu'on se retrouvait dans une. Les gens ne se retrouvaient plus justement dans cette culture-là.
J'ai peur que quand il dit « la priorité, c'est le business », ben oui, mais il va falloir m'expliquer si on commence à arnaquer ses clients, ça va bien marcher, virgule, à très court terme. À très court terme, ça marchera une fois. Voilà. En revanche, après, ça va être plus compliqué.
Ben donc, oui, je suis d'accord avec toi, parce que c'est ce qui est décrit dans le livre « Persuasion » de Robert Cialdini, puisqu'en fait, pour moi, c'est un des grands mentors en marketing. Et donc, en fait, il a écrit, bien sûr, « Influence et manipulation ». Il a sorti un autre bouquin il y a 3-4 ans, qui est « Persuasion », qui est, on va dire, un additif du bouquin. Et ils expliquaient justement que les entreprises qui avaient une culture client d'arnaque envers leurs clients avaient aussi une défiance de leurs propres collaborateurs et que généralement, il y avait plus de procès, il y avait plus de coûts, il y avait plus de vols, etc. Parce que les gens se disaient, de toute façon, s'ils font ça aux clients, c'est-à-dire que moi aussi, je vais taper derrière. Et donc, en fait, c'est le fait de ne pas être orienté client et de vouloir arnaquer les gens, finalement, ça se retournait contre la rentabilité de l'entreprise. Voilà.
La défiance attire la défiance, la confiance attire la confiance.
Ouais. Alors justement, comment ça se fait que les entreprises ont parfois l'air d'être orientées clients alors que leurs clients pensent l'inverse? Généralement, quand on dit aux entreprises, bon alors, est-ce que vous avez l'impression d'être orienté client? Ils disent oui, pas de souci, 90%, etc. Et quand on demande aux clients, généralement, on a un taux de 20% ou des choses comme ça. Comment tu peux expliquer cet aspect culture client qui n'est pas symétrique?
Alors, ça, c'est une très bonne question, une très bonne remarque, parce qu'en effet, ça marche à tous les coups. Hein. Ça marche à tous les coups, sauf dans quelques entreprises. Nous, avec toutes les entreprises avec lesquelles on a travaillé, globalement, elles nous disent quasiment tout ça. Et pourquoi ? Bah parce que la plupart, comme je le disais il y a quelques minutes, se trompent de guerre en ce qui concerne l'orientation client. Elles se disent, on s'occupe d'améliorer les parcours clients, donc on est orienté client. Ah non, 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 non. Malheureusement, c'est plutôt l'inverse. C'est en s'orientant client, on va améliorer les parcours et l'expérience, et ce qui va tout changer. Et donc, quand on prend le problème à l'envers, malheureusement, ben ça ne marche pas très bien. Quoi. Voilà. Et donc, si vos KPI, vos process, votre orga, si les gens ne sont pas orientés clients, on peut essayer de proposer tout ce qu'on veut, ça ne marchera jamais. Moi, je fais la comparaison avec Sisyphe. Je mets un pognon fou pour monter la pierre le plus haut possible. Et c'est, j'insiste, je suis très positif quand je dis ça. C'est tout à fait volontaire, c'est franc, c'est vrai, c'est comment dire? Non, non, c'est réel, quoi. C'est pas fake. Voilà. Le problème, c'est que ça y est, on est presque arrivé, mais la pierre retombe immédiatement. Pourquoi? Parce que sans culture client, c'est-à-dire sans des gens en tes clients et une organisation en tes clients, comment voulez-vous que ça marche? À peine, avec l'exemple que tu citais il y a quelques secondes, à peine on va bouger un tout petit peu, plaf, tout va retomber. Voilà. Donc, si
ouais,
tout
ouais, dans l'agence bancaire,
ça va marcher,
tu donnes le bout. Dans l'exemple, tu disais, oui, une personne, dans le livre, je crois, il y a ça, une personne qui va dans une agence bancaire et qui va remettre un chèque et on lui dit, non, mais désolé, moi, je ne peux pas prendre les chèques, il faut aller au guichet. Et là, personne se dit, non, mais je veux remettre un chèque si je viens à l'agence, c'est que justement, je vais le remettre à vous. Non, désolé, je ne prends pas les chèques, il faut aller au guichet. Et là, on passe à côté et là, le client se dit, mais c'est pas possible. Voilà.
Alors que le process peut être très orienté client, etc. Le problème, c'est que on est empêché souvent. Quand vous avez des gens qui sont orientés clients, ils sont souvent empêchés. Ils essayent et puis ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que l'autorisation n'est pas faite, n'est pas donnée par la culture de l'organisation. Donc, beaucoup d'entreprises investissent des millions et des centaines de millions, voire des milliards, pour atteindre un niveau de NPS, pour prendre un exemple connu, hein, X, et ils viennent souvent nous voir en disant on a dépensé un pognon fou, notre NPS ne bouge plus, on ne comprend pas, on fait tout pour ça. Et ben, nous, on leur dit, ben, écoutez, on n'a rien à inventer, hein, mais c'est toujours pareil, ne vous trompez pas de cause. Voilà, donc il faut d'abord s'attaquer à la cause racine. Sinon, vous pouvez changer tout ce que vous voulez, ça ne se passera pas. Et on arrive à quoi en jouant à ce jeu-là? Ben, comme ça ne marche pas, mais que les gens sont incentivés sur le NPS, ben, ils finissent par arnaquer le NPS. Mon cher Frédéric, s'il te plaît, mets-moi 9 ou 10.
Mets-moi une bonne note, oui.
Voilà, et là, on retombe sur ta question. Mon cher Frédéric, mets-moi 9 ou 10. Donc, l'entreprise va dire, regardez, mon NPS, il est à plus 30. Et tous les clients vont dire, mais c'est quoi cette boîte? Je n'y remets plus les pieds. Donc, tu as la réponse à ta question. On arrive au customer washing parce qu'on s'est attaqué pas au bon problème. Il faut juste accepter de se dire, pour mieux arriver au résultat, il faut que je m'attelle à la cause de ce résultat-là.
Alors justement, juste pour finir et après passer à la mesure de l'orientation client, ce que j'aimais bien dans ton livre, c'est la partie système 1, système 2, se dit en fait qu'il y a à la fois les réflexes, etc. Est-ce que tu peux juste développer en quelques minutes cet aspect levier psychologique qui est important à connaître?
Tout à fait. Alors là, on est sur la partie, dans les deux leviers, on est sur la partie côté collaborateur. Voilà. Et donc, c'est ça vraiment une des principales valeurs ajoutées du COS, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde s'occupe de changer leur gars, mais on ne parle pas des collaborateurs. Et comme je te le disais, pour l'instant, ce qu'on cherche à faire, c'est des formations, à dire bonjour, à machin, à accueillir, etc. Globalement, moi, tous les DG que je vois et tous les patrons de formation me disent, on a tout essayé, là, vraiment, ça ne marche pas. Ben oui, ça ne marche pas, c'est normal. Parce que je ne vais pas te taper sur la tête, Frédéric, en disant tu dis bonjour, sinon je t'en colle une, quoi. Excuse-moi de le dire comme ça. Ça ne marche pas, ça. En revanche, si toi, tu te rends compte que moi, toute la journée, j'accueille bien le client, que ça a du sens, que pour ton salaire à toi, c'est important, que pour le bien-être général, c'est important, et comment on s'y organise et que tu vois que les choses changent, ben, tu vas venir naturellement. Et donc, on revient à cette partie de dimension mindset des gens, entre guillemets, ce qu'ils ont dans leur tête. N'oublie pas, hein, valeurs et croyances partagées. Et donc, alors là, on est basé sur des théories bien connues depuis très longtemps maintenant, mais qui ont quand même eu un prix Nobel d'économie, hein, Daniel Kahneman, 2002. Quand même, hein, prix Nobel d'économie. Et il faut savoir, Frédéric, que le nudge, toutes les théories autour du nudge sont dérivées, donc Sohnstein, etc., prix Nobel d'économie en 2007, je crois, c'est bien la suite de toute la théorie d'économie comportementale. Et donc, pour revenir à système 1, système 2, pour essayer de faire très simple, ce qu'essaye de nous faire comprendre Daniel Kahneman et ce qui lui a valu son prix Nobel d'économie, c'est de nous faire comprendre pourquoi on décide souvent mal. Pourquoi la théorie classique du homo economicus, tu sais, bien carré, bien, qui décide bien avec des... Bon, ça ne marche pas. En vrai, comme le dit le titre du bouquin de Daniel Arieli, on est tout à fait irrationnel, mais de façon très prédictible. Voilà. C'est que je sais que tu vas être irrationnel, mais je sais pourquoi et je sais comment. Voilà. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Et pourquoi? Petit exemple, très simple. Je dirais que ça t'est arrivé 50 fois. Tu descends dans le midi, il est... 14 heures, c'est en pleine semaine, tu es avec ta petite famille dans ta bagnole et tu roules. Et tout d'un coup, entre guillemets, tu te réveilles, tu dis « Hein, on est déjà arrivé à Montélimar, waouh !» Et bien, qu'est-ce que tu as fait depuis une heure? tu conduisais. Et tu conduisais, entre guillemets, malgré toi. Ça fait tellement longtemps que tu conduis, que tu as pris. Il n'y a personne sur l'autoroute, il n'y a pas de danger particulier, tu es à 130 piles, tout va bien, bon, voilà. Oui, tu as doublé, oui, tu as peut-être freiné, tu discutais, tu. Ça, c'est.
Ah ouais, mais c'est comme le code que tu fais sur ta porte d'entrée. En fait, tu te souviens même plus de ce code quasiment.
Voilà, tu le fais sans même le regarder, sans même y réfléchir. Eh bien, ça, c'est ce que Kahneman résume en l'appelant le système 1. Alors, ce n'est pas une partie du cerveau, pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. C'est une façon de penser, une façon de réfléchir. D'accord? C'est un type de pensée. OK? Et donc, d'un côté, il y a le système 1, c'est de l'ordre de. Les trois mots-clés, c'est spontané, naturel, automatique. Je n'ai pas dit inconscient. Hein. Ça peut être inconscient, mais ça peut être conscient aussi. Et donc, les gens confondent souvent, disent, ah ben, il y a l'inconscient et le conscient. Non, non, ce n'est pas freudien. Là, c'est vraiment des modes d'accès au cerveau qui sont naturels, spontanés, automatiques. Ça aussi, mon système 1. Et puis, de temps en temps, quand je me mets à conduire pour monter, on est à Grenoble, monter à Champs-Rousses, et qu'il neige et qu'on ne voit pas à 3 mètres, Frédéric, j'ai peur que si tu es en système 1, tu passes vite un mauvais quart d'heure. Voilà, parce que là, tu es obligé de te concentrer. Et ça tombe bien, Frédéric, tu t'aperçois qu'au bout de 20 minutes de conduite, tu es épuisé. Et donc, voilà ce que nous annonce Kahneman, mais qui viennent de toutes les recherches. Tout ça, ça vient de toutes les recherches en psychologie cognitive et en psychologie sociale. Ça fait des années et des années que ça existe. C'est de nous dire, nous sommes guidés par notre système 1 toute la journée pour éviter de nous fatiguer, de griller notre cerveau. Et en revanche, quand le cerveau voit une situation qui nécessite une vraie réflexion, construction élaborée, d'accord, délibérée, eh bien, on passe en système 2. Mais notre système 1 existe toujours. Notre système 1, il vient de tout ce qu'on a vécu avant, de tout. Bah, pourquoi tu conduis, tu doubles, tu regardes dans ton rétro sans même y faire attention? Parce que tu as été conditionné, quoi, voilà. Et c'est normal. Et donc, si je fais le parallèle maintenant avec client, ben, quand je te dis client, qu'est-ce qui se passe dans ta tête en système 2, quand tu réfléchis? Est-ce que tu te dis client, ah oui, j'ai envie de m'en préoccuper, c'est bien, c'est positif? Ou est-ce que tu te dis, oh, client, oh, oh, ça m'emmerde, ils gueulent, les clients, j'aime pas m'occuper des clients. Ça, c'est en système 2. Mais comme tu réfléchis, tu peux bouger les choses. En revanche, ton système 1, il va parler malgré toi. Tu vois, tu vas, ah, ça va sortir malgré toi. Et voilà pourquoi, deux petits exemples. Premier exemple, voilà pourquoi quand tu rentres en boutique et que tu as quelqu'un qui t'accueille, voilà pourquoi, sans tourner la tête, il dit, oui, bonjour. C'est que là, il a été parlé, dirait Lacan. C'est que c'est son système 1, il n'a pas réfléchi, il a entendu la porte s'ouvrir, il dit, je dois dire bonjour, oui, bonjour. Autant dire que là, c'est gagné, si tu veux. C'est vraiment super. Ça, c'est l'exemple majeur. Deuxième exemple, j'intervenais dans une entreprise dont je tairai le nom, et dont le directeur général m'avait dit, voilà, on accueille aujourd'hui un expert de la problématique parce que le client, vraiment, vous comprenez, le client, le client, le client. Et donc, il était en train de faire cette introduction devant plus de 200 personnes. Et à ce moment-là, ce que je dis est authentique, hein, il a dit, non, parce que vous comprenez, vous le savez, mesdames et messieurs, le client, pour moi, c'est vraiment très emmerdant, important.
Ah.
Voilà. Et donc, j'étais là, j'ai donc assisté à ça en direct, juste avant ma conférence. Et là, si vous voulez, ben, qu'est-ce qu'il y a à dire? C'est fini. Tout est dit. Les 200 personnes ont parfaitement compris ce que voulait dire le patron. C'est que le client, ça l'emmerde. Et que ça l'emmerde malgré lui. Quand il y réfléchit en système 2, il dit, mais oui, il faut que je m'en occupe. Mais au fond de lui, son système 1, le client, ce n'est pas son truc. Et la preuve, il a été parlé. Voilà. Et donc, moi, à la fin de ma conférence, bah, d'abord, j'ai hésité. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? J'interviens ou pas? Parce que tout est dit, quoi. Je pourrais dire ce qu'on veut. Tout le monde se dira, bon, allez, laisse tomber. Ils n'en pensent pas un mot. Et donc, à la fin de la conférence, j'ai été rejoint par plusieurs personnes. Il y avait un petit cocktail après, qui sont venus me voir avec un verre à la main, en me disant, bonjour, monsieur Ray, voilà, je crois que vous avez compris. Vous avez bien compris. Je dis, oui, je crois que j'ai bien compris, malheureusement, oui. Oui, c'est pas gagné. C'est pas gagné. Et donc, ce dirigeant qui est très intelligent, qui est très motivé par le client, il n'y a pas photo. Ouais. Le problème, c'est qu'il n'a pas pris conscience qu'une partie de lui-même n'était pas du tout anti-client. Pour des raisons qu'on peut très bien comprendre. Hein. Il a travaillé avant dans telle chose, je ne sais pas. Mais ce n'est pas une tare. Sauf que ça joue contre lui. Et voilà pourquoi, et tu l'as bien compris, Frédéric, dans les grands discours des dirigeants, bah, quelquefois, bah, il peut y avoir des lapsus, mais même quand il n'y a pas de lapsus. C'est notre ventre à nous qui écoutons. Nous, notre ventre nous dit, mais je ne sais pas pourquoi, je ne le sens pas là. Je ne le sens pas. Et bien voilà. Donc, bienvenue dans quelque chose qu'il faut faire comprendre aux dirigeants et aux managers, de dire, connaissez-vous vous-même en termes d'expérience client, pardon, d'orientation client et de culture client, parce que vous, en système 2, vous pouvez être très orienté client, mais peut-être que votre système 1 l'est moins. Et du coup, ça, il faut le savoir, parce que vous allez donner une vision totalement paradoxale à tout l'ensemble de l'entreprise. Et que vous aurez beau faire un mail qui dit « il faut se rendre client » et dans tous vos discours dire « le client c'est le plus important », tout le monde dira « j'en crois pas un mot ». Et ça ne bougera pas. Et ça ne bougera pas.
Ben, j'ai bien aimé aussi dans le livre, il y a l'exemple de Malakoff Mundéric qui disait que ben, l'enchantement client vient fortement du relationnel. Et en fait, la personne qui s'occupait des formations disait « ouais, non, on ne va pas faire une formation comme tu dis sur le bonjour, la gestion des risques, etc. » Mais il voulait plutôt faire une formation sur les mentalités avec des questions tous les jours pendant 6 semaines plutôt qu'une formation. Et comme il disait, c'était plutôt un ancrage pour faire changer les mentalités. Et ils ont pu voir comme ça au bout de 2 semaines que les clients disaient « ah oui, merci, etc. » et une réelle évolution du NPS sur le temps. Et ils font tous les jours en fait ce qu'ils appellent la minute client, où ils discutent en fait des clients, qu'est-ce qui s'est passé, mal passé, etc., etc. Et en fait, ça permet de raconter en fait quelle était la meilleure histoire, qu'est-ce qui permettait d'expliquer ce geste. Et ils disaient que c'était beaucoup plus efficace parce que c'était entre guillemets une formation entre pairs, et ce qui faisait que ça faisait vraiment changer les personnes. Et c'était pas comme disait la formation monolithique qui a lieu une journée et après les gens s'en souviennent et puis après le réflexe disparaît parce qu'ils reviennent dans le naturel.
Chasser le naturel, il revient au galop. Donc, c'est notre système 1. Mais quand on l'a compris, c'est ça. Alors, l'exemple que tu cites chez Malakoff Humanis, en effet, c'est Frédéric Valetti qui est le responsable de ce projet. Et je vous conseille de l'écouter quand il intervient, parce que c'est vraiment passionnant. Et en effet, ça a été le principe adopté par Malakoff Humanis, c'est de se dire, ben, on va changer notre mindset et on va se dire, ben non, on s'attaque vraiment à la culture client. Comment on peut faire ? Comment on peut faire ? Parce que si on ne le fait pas, on ne survivra pas à terme. Parce que la concurrence devient plus forte, parce que, etc., etc. Et donc, je pense qu'en effet, ils ont tout compris et qu'ils ont mis exactement en place ce que tu dis. Et donc, il y a un gros programme avec Grenoble École de Management qui utilise les outils COS, en particulier le COS individuel, etc. Et c'est exactement, et là, tu parlais tout à l'heure de l'outil COS in Mind, qui a exactement pour objectif cela. C'est-à-dire, je sais où j'en suis en système 1, en système 2, comment je fais évoluer ça. Et donc, nous, avec le COS individuel, on mesure avant et on mesure après. Et on voit l'évolution. Et le plus intéressant pour Frédéric Valetti, c'est ce qu'il constate, mais il t'expliquera lui-même, c'est ce qu'il constate, c'est que le NPS change. Et oui, parce que comme moi, j'ai changé, ben ça change aussi. Et donc, on a des choses qui changent assez vite. Alors, ce n'est pas comme ça, évidemment, hein, faut changer de mindset. Mais en effet, ça change et ça change assez vite. Ça, c'est en utilisant, donc, dans le cadre d'une formation réalisée avec Grenoble École de Management, et ils utilisent les outils COS scientifiques de ça, basés sur système 1 et système 2. Et on voit des preuves, je les ai, hein, il faut les demander à Frédéric Belletti, parce qu'évidemment, je ne peux pas les dévoiler ici, parce qu'elles sont confidentielles, mais on a des preuves physiques, très claires, de résultats en termes de changement de niveau de culture individuel, et deux, de changement de NPS. Il n'y a pas photo.
Alors justement, avant de passer sur justement le COS et cet outil qui permet de mesurer l'orientation client de l'entreprise, individuelle, des managers, parce que dans Frédéric Baletti, justement, il a fait passer le COS aux managers, aux dirigeants auparavant. Est-ce qu'il y a, entre guillemets, une méthode ou des étapes pour faire évoluer sa culture d'entreprise vers une culture plus orientée client? Est-ce que tu peux nous donner vraiment quelques grands milestones ou des étapes clés ou des bonnes pratiques?
Alors déjà, il y a, je vais essayer d'être synthétique, il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'il y a 3 ou 4 facteurs clés de succès qu'on a pu voir avec les 150 boîtes qu'on a aidées, et c'est assez marquant. D'où qu'elles viennent, qu'on parle de Decathlon, par exemple, donc qui est plutôt dans le top, évidemment, ou d'entreprises qui partent de très loin, mais qui ont une vraie volonté d'y aller, il y a des choses qui restent. Et donc, des invariants. Le premier invariant, c'est, je suis désolé, hein, tu vas me trouver obsédé par ça, c'est ne pas se tromper de guerre. Parce que comme on va vite, on se dit, bon, allez, ah, ok, c'est bon, allez, c'est bon, on y va, on fait ça, ok, on a compris, de toute façon, nous, on s'occupe de l'expérience client. D'abord, on a beaucoup investi sur la relation client, donc c'est bon, pas du tout. Donc, ça veut dire qu'il faut faire prendre conscience aux dirigeants de 2 choses. 1, c'est rentable. 2, de quoi parle-t-on? Donc, pas se tromper de guerre. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas commencer, une démarche là-dessus, sinon...
Si la direction n'est pas... ouais,
si déjà... Le COMEX, là-dessus, n'est pas clair. Donc, souvent, on nous demande d'intervenir, et on le fait avec plaisir, parce qu'évidemment, l'externe a toujours raison. Enfin, Frédéric, c'est toi, c'est pas comme je vais l'apprendre. Voilà, et oui. Et donc, du coup, on intervient, nous, avec notre casquette spécialiste, scientifique, etc., en disant, ben voilà, sachez bien que, voilà, il y a des 15 000 entreprises, une méta-analyse sur 15 000 entreprises dans le monde entier, une autre sur 25 000, voilà ce qu'elles disent, voilà pourquoi, etc. Et évidemment, les dirigeants comprennent très, très vite. Donc, ça, c'est le premier facteur clé de succès, c'est l'étape préalable. C'est ne pas se tromper de guerre, et donc avoir compris de quoi on parlait pour s'attaquer au bon problème et pas passer à côté parce qu'on va passer à côté tranquillement, sereinement, le mieux possible, mais on passera complètement à côté. Donc, et à l'intérieur de ça, c'est d'avoir compris c'est quoi les. À l'intérieur de ça, si la culture client, c'est les croyances et les valeurs partagées, c'est quoi les deux piliers de la culture client? Les gens, l'organisation, et à l'intérieur de chacun des piliers, qu'est-ce qu'il y a, etc. Bon, et donc, nous, notre outil de diagnostic COS permet de diagnostiquer ça. Ça, c'est le deuxième facteur clé de succès. Et c'est pour ça qu'on a monté le COS au début, l'outil de diagnostic, le premier outil. C'est que le deuxième facteur clé de succès, c'est qu'il y a plein de boîtes qui sont venues nous voir en disant « Ok, on ne va pas se tromper de guerre, en revanche, on ne sait pas comment s'y prendre, quoi. Par où on commence ?» Parce que c'est tellement vaste, les croyances et les valeurs. Vas-y Frédéric, change les croyances et les valeurs.
Ah, c'est hyper compliqué.
Ben voilà, on ne sait pas par où s'y prendre. Alors donc, nous, moi, on a mis au point, il y a quelques années, le COS Company, qui a les deux, donc le COS employé, hein, côté employé, puis le COS organization, côté de l'organisation, et on fait un diagnostic chirurgical, c'est l'objectif, hein, chirurgical, chiffré et benchmarké. Donc, vous travaillez dans l'assurance, ok, on vous compare à qui, etc., etc. Et donc, ben, au moins, c'est clair. Et donc, le gros intérêt, ce que nous disent les dirigeants, c'est qu'ils nous disent, waouh, ah ben là, c'est lumineux, parce qu'on sait que là, on est à plus 30, là, on est à moins 22, que le benchmark, il est là et là. OK, on sait où jouer. Un, où on en est. Deux, sur quoi faut-il jouer en priorité. Ça, c'est le deuxième facteur clé de succès. Premier, ne pas se tromper de guerre. Deuxième, commencer par un diagnostic. Alors, évidemment, je parle du COS parce que c'est mon outil et que je pense qu'il est très, très, très loin le meilleur. Ça, il n'y a pas photo. Les autres, je n'en connais pas beaucoup, en tout cas, aucun scientifique. Mais il y en a peut-être d'autres, hein, et très bien. Je veux dire, voilà, je ne suis pas là pour vendre le COS. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est évidemment comment j'agis, et notamment dans la durée. Parce que le pire, c'est « Ok, j'envoie un mail, ça y est, c'est fait. » Donc ça, il ne va rien se passer. Il ne va rien se passer. Et donc, le problème, là, il y a plusieurs sous-problèmes et des étapes majeures. La première étape, qui est toujours quelque part dans « Ne pas se tromper de guerre », mais on y arrive après, c'est de comprendre que le culture, c'est toute l'entreprise. Ce n'est pas le front office, parce que c'est ça que font la plupart des gens. Les formations dont on parle, c'est que les commerciaux qui les ont. C'est que la relation client qui l'a. Et on dit check, ça y est, j'ai fini, j'ai fait le job. Mais non, mais non. Une culture, c'est l'intégralité des gens. Et donc, les RH sont concernés. Et là, vous allez me dire, les RH sont concernés, mais attendez, mais je ne suis pas concerné. Ah si, directement. J'ai plein d'exemples, si on a le temps, je peux en donner un ou deux. La DSI et les RH, ce n'est pas à toi que je vais apprendre, Frédéric, que si eux ne sont pas orientés clients, il ne va rien se passer derrière.
Oui, parce qu'ils ne recruteront pas les bonnes personnes orientées clients. Ils vont prendre des gens efficaces, mais des gens qui parfois n'auront pas justement, ils auront une culture trop process et pas une culture assez orientée client.
Frédéric, toi qui travailles dans l'informatique, quand tu as le ticket 433, tu as le ticket 433. Bon, ça va bousiller la moitié du chiffre d'affaires, mais tu as le ticket 433. Et objectivement, du point de vue du process, le DSI a raison.
Mais maintenant, oui, je me vois souvent pour ça, pour dire, quand on dit aux clients, bon, allez, créer un ticket et ensuite je pourrais traiter votre demande. Mais non, mais pourquoi tu ne crées pas toi-même le ticket? Parce que le client, tu ne vas pas lui dire de réexpliquer son problème. Créer le ticket, c'est.
Après, moi, je n'ai rien contre le principe du ticket. Mais si le ticket 433, c'est la moitié du chiffre d'affaires et de la satisfaction du NPS qui se joue, alors que le ticket numéro 2, c'est Daniel qui a un problème avec son PC et ça l'aiderait juste ça et que ça n'a aucune incidence, excuse-moi, mais ce n'est pas parce que je suis 2 et qu'il est 433 que le 433. Donc, le bon sens client, ça existe aussi chez la DSI. Et on a des exemples dans le bouquin où vous avez des DSI qui sont hyper orientés clients. J'ai un autre exemple, un directeur juridique. A priori, le directeur juridique, lui, l'orientation client, ce n'est pas a priori. Voilà. Oui, sauf que lui, qu'est-ce qu'il s'est dit? Très intelligent, au Crédit Mutuel. Il s'est dit, mais je vois bien que tous les clients ne comprennent rien au contrat. Mais rien. Et c'est une horreur, c'est une source de stress colossale. Donc, il a écrit un petit dictionnaire. Il a pris son fichier Excel. On lui a rien demandé. Hein. Il a écrit ce mot barbare là en juridique. Voilà ce que ça veut dire en pratique, avec des mots simples. Et il l'a fait, lui, directeur juridique. Et il a dit, vous mettez ça à côté des contrats. Et attendez, ça change tout. Ben voilà. Ben lui, il n'est pas en front office, il est en back office. Et pour les RH, c'est pareil, etc., etc. Et donc, c'est un troisième facteur clé de succès, c'est bien comprendre que ça concerne toute l'entreprise. Sinon, on arrive à quoi? Et on l'a vu très souvent avec Guillaume, avec le COS, dans le COS Company, des entreprises à deux vitesses. Il y a deux entreprises en une. Une entreprise front office très orientée client qui est à fond, une entreprise back office qui, elle, est saturée par d'autres choses, très orientée organisation. Il y a peut-être des gens très orientés clients à l'intérieur, mais on les bride en permanence. Et ce qui fait qu'évidemment, l'un tape sur l'autre en disant ils n'ont rien compris, l'autre tape sur l'un en disant ils n'ont rien compris. Et évidemment, l'expérience client craque toujours au maillon faible. Et le maillon faible, bah, ça, c'est pas obligatoirement celui que je vois face à moi.
Ouais, ça peut être la facturation. On voit souvent, en fait, des points clés quand les gens se plaignent, ils disent, mais la facturation n'est pas claire, on ne comprend pas, etc. Et c'est vrai que les gens de la facturation disent, mais non, tout est clair, tout va bien, regardez, c'est ce qu'il a commandé le client. Oui, mais le client, il ne comprend pas. Et souvent, il faut leur prouver en leur disant, regardez, regarde l'étude, le client, il dit qu'il ne comprend pas. Ah ouais, c'est vrai que le client, il ne comprend pas. Ah d'accord, on va revoir.
Et puis, une fois qu'on est parti, donc là, je reviens à quatrième facteur clé de succès, c'est d'avoir bien compris l'histoire du système 1, du système 2. Donc, ça veut dire accepter de ne pas en rester juste à, bon, on va changer les normes, les process, les KPI, et puis tout ça, puis ça va marcher. Mais non, non, il faut jouer aussi sur l'autre volet que sont les hommes et les femmes. Et pour ça, bah, typiquement, par les formations dont on parlait tout à l'heure. Les formations, ces formations sont excellentes, hein, sauf qu'elles arrivent après la culture. Quand, Frédéric, tu es orienté client, ça y est, tu t'es lâché, tu peux, tu as compris, tu as vu tes limites, tu as vu tes atouts, et qu'après on te dit, bon, maintenant on va te donner des trucs pour arriver à mieux dire bonjour, etc. Ben, ça change tout. Là, tu es ouvert, et là, ça va marcher. Mais commencer par l'inverse, c'est se tromper et ne pas s'attaquer aux causes. Voilà. Et donc, du coup, ben, c'est la deuxième, enfin, c'est à l'intérieur de ça, quand on tape sur le mindset, c'est ce qui se passe. Et puis de l'autre côté, côté organisation, autre facteur clé de succès, c'est de bien avoir conscience des trois dimensions principales. Au total, il y a 20 dimensions, mais il y en a trois qui se regroupent en trois. Trois dimensions de la culture client: l'impulsion stratégique, la connexion au client, et l'autonomie et la responsabilisation des équipes. Et donc la question, c'est, troisième facteur clé de succès, c'est comment je joue sur chacun de ces choses-là, sur chacune de ces choses-là, excuse-moi. Et donc, bah, là, pour ça, il y a ça, là, et pour ça, il y a ça. Et quatrième facteur clé de succès dérivé du troisième, en termes d'étapes, c'est concrètement comment je fais, non pas pour que Dieu dise, voilà, tout le monde fait ça, mais pour que chaque service puisse dire, tiens, bah moi, on a nos trous dans la raquette, ils sont là. On a des
Ouais.
forces, on a des faiblesses, mais on va les partager, puis on va faire notre propre plan d'action. Au sein de rails, bien sûr, hein, l'entreprise est bien menée d'en haut, mais au sein de ces rails, ça sert à rien d'aller chercher tout le monde et dire tout le monde passe à la moulinette de ça et point, c'est tout. Non, il y a peut-être une moulinette commune, mais autour de ça, bah toi Frédéric, dans ton service, il se passe ça. Moi, Frédéric, dans mon service, c'est différent. Nous, on est bon là-dessus, mais on est moins bon là-dessus, etc., etc.
Donc, il faut des relais expérience client, des relations clients, des gens qui ont une volonté d'agir à leur niveau.
Voilà, et surtout, d'un point de vue de la culture, qu'est-ce que je change moi, dans mon truc à moi, voilà, et dans chacune des trois dimensions. Et on s'aperçoit à ce moment-là que tout va bien mieux. Et puis dernière chose, mais là, je n'en parle même pas, c'est la fin du bouquin, c'est les 8 commandements. Et on s'est risqué, un peu sous forme humoristique, mais aussi sous forme beaucoup moins humoristique que prévu, à dire, ben, il y a non pas les 10, mais les 8, il y en aurait bien d'autres. Hein. 8 commandements qui permettent, mais là, je laisse les lecteurs
Alors
découvrir ça dans le bouquin.
je les avais notés et c'est vrai qu'ils sont excellents et surtout en fait les exemples qui sont liés à ça sont vraiment très intéressants et aident vraiment à faire de l'impulsion. Et Daniel justement, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton livre et le COS? Qu'est-ce que le COS? On a parlé plusieurs fois, le Customer Orientation Score, il y a trois niveaux. Est-ce que tu peux nous en dire comment ça marche, comment on peut mettre en place cette mesure et après bien sûr où on va pouvoir se procurer ton livre?
Alors, bah écoute, alors le COS, comme tu l'as vu au début, c'était historiquement, le canal historique, entre guillemets, c'était le COS Company, c'est-à-dire un outil de diagnostic. Voilà. Très, très opérationnel, avec quelque chose de deux facteurs clés de succès quand on l'a construit. Un, surtout pas une usine à gaz. Surtout pas. Et ce n'est pas à toi qui travailles chez Eloquent que je vais apprendre ça. On travaille avec Eloquent là-dessus, et merci à Eloquent qui nous a permis de faire quelque chose qui marche tout de suite. D'accord? C'est-à-dire que, demain matin, Frédéric, tu me dis, je veux faire mon COS Company, tu me laisses 1 heure, dans 1 heure, c'est parti.
Ouais.
Comme tu vois, ce n'est pas vraiment une usine à gaz. En revanche, les résultats, deuxième facteur clé de succès, les résultats, eux, ils sont précis pour pouvoir agir. Notre objectif, c'était que ce ne soit pas juste un truc, puis hop, on le met à la poubelle. Non, non, c'est, OK, je sais exactement où je dois agir avec mon plan d'action. Ça, c'est l'outil de base qui est le diagnostic. Et on est parti de là. Et puis, au fur et à mesure, avec Guillaume, on s'est rendu compte qu'on avait plein de demandes.
Ouais.
Exemple très simple qui nous est arrivé tout de suite, un DRH qui nous dit, c'est bien gentil votre truc, c'est super, hein. Mon problème, moi, c'est que changer les gens à l'intérieur, ok, mais moi je recrute, comment je fais pour recruter des gens en tes clients?
Ouais,
Et là on s'est
c'est
dit,
vrai.
tiens, on n'avait pas pensé à ça. Et du coup, deuxième outil, COS recrutement. Donc on a un test, comme un autre test de recrutement, et qui montre si on est plutôt anti-client, très anti-client, etc. Et donc, ça permet aux recruteurs de se dire, ça ne sert à rien. Moi, je veux recruter des gens anti-clients. Ça ne sert à rien de trouver des gens qui ne sont pas anti-clients. Et du coup, ils ne vont pas être bien dans la boîte parce qu'ils ne seront pas dans la culture. Et nous, ça ne va pas nous aller. On va s'en séparer dans 3 mois. Tout le monde a perdu. Donc, typiquement, le cost recrutement. Troisième point, pareil, Frédéric, des gens qui nous posaient des questions, qui nous disaient, oui, mais comment on fait pour changer le mindset des gens? Et là, donc, on a mis au point tout un outil qui est à la fois un outil de diagnostic individuel, le cost individual. Donc, c'est une sorte, moi, je dis c'est le MBTI, le test de l'orientation client, qui définit, Frédéric, ton profil individuel, personnel, d'orientation client. Et donc, te connaître. Oula, mais je risque du coup, il y a ça. Tiens, au contraire, je suis assis sur une mine d'or et je ne m'en rends même pas compte. Il y a plein de gens qui sont hyper anti-clients en système 1 et qui ne le savent pas et qui sont bridés, qui ne s'autorisent pas. Et nous, le test leur dit, bah, attendez, regardez, mais lâchez-vous. Mais vous êtes, ce que vous allez faire va être super. Votre système 1 parle client, c'est génial, par exemple, et plein d'autres choses. Et puis le Cost in Mind, qui est là le dernier outil qui vient de sortir, et qui marche très, très bien, qui est une très grosse demande par les entreprises, c'est justement les 6 semaines ou les 4 semaines dont tu parlais, où on essaye de faire, avec des méthodes scientifiques, et voilà pourquoi ça a vraiment là, c'est un outil vraiment unique au monde, c'est que ce n'est pas juste on fait des exercices, pas du tout. Non. C'est que chaque exercice vient d'une des 7 stratégies scientifiques prouvées scientifiquement qui permettent de changer de mindset. Parce que tu penses bien, Frédéric, que ce n'est pas en te disant « garde à vous » que ça va marcher. Aujourd'hui, ce « cost in mind » il existe, et il permet de transformer le mindset des gens. Et à la fin, on mesure avant, on mesure après. Et puis, il y a d'autres outils qui vont sortir. Tous ces outils étant au sein du Customer Orientation System, qui a pour objectif unique, transformer l'entreprise en la recentrant sur ses clients le plus vite et le mieux possible et de façon durable. C'est notre seul objectif.
Ouais, tout à fait. Bah, merci. Et ce fameux livre, où est-ce qu'on va pouvoir le trouver?
Chez tous les bons libraires, ou pas d'ailleurs. Bien sûr, alors je suis désolé, on peut aimer ou pas Amazon. Moi, je suis désolé, mais malheureusement, on peut dire ce qu'on veut en termes de NPS d'Amazon, il n'y a rien à dire. Bon, vraiment, donc vous le trouverez chez Amazon, vous le trouverez à la FNAC. Bref, vous pouvez l'acheter en Kindle, en format, tout ce que vous voulez, à la fois électronique et à la fois ouvrage là, physique, qu'on tient dans sa main, où je prends des notes, ou etc. Voilà. Et il y en a même qui aiment l'odeur des bouquins. Donc, voilà.
Ah bah oui, mais je sais que... de toute façon, moi, je suis très fan de livres audio, mais le livre audio ne donnera jamais, en fait, cette qualité de lecture que tu as quand tu lis un papier, en fait, et que tu lis vraiment un texte. Et là, ça n'a rien à voir. C'est quand tu lis, tu as une meilleure mémorisation. Mais quelque part, le bouquin audio, moi, il me permet, pendant les temps morts, le trajet, etc., d'avoir un premier niveau de lecture et après de réécouter à nouveau le livre.
Et donc, comme vous avez compris, j'espère, il ne faut pas lire le bouquin. Non, c'est le Vademécum, c'est une sorte de bible de la culture client en toute modestie. Donc, il faut se dire, tiens, attends, j'ai tel problème. D'abord, je le lis pour comprendre de A à Z ce qui se passe. Puis après, tiens, j'ai un problème. Tiens, comment je peux faire? Page 212, page 53. Tiens, on me demande d'expliquer la culture client à mon enfant de 14 ans. Merde, comment je fais? Attends, c'est simple. Page 22, tout est dit. Voilà, c'est l'objectif du bouquin. Et j'espère qu'on aura réussi avec Guillaume à faire ça.
Une bonne recette. Bah, merci en tout cas pour toutes ces explications, Daniel. Et si on veut en savoir plus, on va sur quel site internet?
Alors, il suffit de taper « Customer Orientation Score » et là, vous tombez sur le site de tout ce qui concerne le COS. Et vous avez là plein d'exemples aussi, plein de verbatim de dirigeants et d'autres responsables de l'expérience client et de la culture client. Et puis, toute une série de choses, d'articles, des choses comme ça. Et puis, un peu plus sur les différents outils. Donc, n'hésitez pas. Même s'il n'est pas fini, il y a plein de choses encore parce que ça bouge tous les jours.
Direction sur cost-system.fr. Bon, à bientôt Daniel et merci pour cette interview.
Merci Frédéric, à bientôt.